Laurent, on va parler des sorties, on va commencer par Albatros, oui, un petit peu sur Lana, Albatros, Xavier Beauvois. Petit lieutenant lui racontait la police, celui-ci raconte la gendarmerie, celle d'Étretat que Beauvois connaît bien, et cette proximité tellement bénéfique profite au film dans ses moindres détails, tout est senti, ressenti dans cette photo finalement de la France, tellement juste à travers le quotidien de ces gendarmes qui affrontent drames familiaux, vols, suicides, agressions, mais aussi accompagnement d'une population. Je repense à cette scène toute simple de ces trois gendarmes qui surprennent un jeune dormant dans sa voiture et repartent dans la nuit sans intervenir. Tout est dit, constat, misère sociale et sans discours.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a en fait juste quatre acteurs professionnels et dans le film face à une kyrielle de non-professionnels mais qui jouent leur propre rôle.
Oui, évidemment, c'est ça que Beauvois connaît dans la vraie vie.
Exactement. Ouais. Donc des gendarmes, bien sûr, vous le disiez, des paysans de ces pays d'Étretat, de Fécamp, du pays de Caux. Donc c'est il y a une dimension documentaire, mais qui n'est jamais pesante, qui n'est jamais lourde, qui est, comme vous le disiez très bien, qui passe par des moments de vérité. On sait la proximité de Beauvois avec le cinéma de Piala. On retrouve effectivement ces choses. Il a une façon d'arriver à saisir l'humanité dans l'inhumanité, parce que quand même, il est question de gendarmerie, il est question de drame, de suicide, d'une balle perdue, etc. Au fond, on a l'impression que Beauvois se dit à la façon d'un Aragon, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et ses réponses sont absolument lumineuses, je trouve, très très belles. Il y a vraiment de beaux moments. Je tiens à dire que le film s'accompagne en librairie, bien sûr, d'un livre qui s'appelle Un monde hors champ, derrière la caméra de Xavier Beauvois. C'est de Dominique Thierry et Catel Muller pour les dessins. C'est édité par la Table Ronde et c'est incroyable parce que c'est une plongée dans l'univers du film. On aurait vraiment envie que chaque film fasse l'objet d'une telle plongée dans l'univers à travers des dessins et beaucoup, beaucoup de textes, évidemment.
Il n'y a pas qu'à Kikorismaki en Finlande, il y a un garçon qui s'appelle Juho Kosmanen, avec ce compartiment numéro 6, Grand Prix Festival de Cannes, attention, énorme coup de cœur. Laura, une jeune étudiante finlandaise en archéologie, va rejoindre depuis Moscou et en train Mourmansk, à 1500 km de là, pour aller découvrir les pétroglyphes des dessins dans la pierre datant du néolithique. Seule dans ce voyage, son amante russe ne l'a pas suivie, et face à elle, dans ce compartiment numéro 6, Lioa, un jeune russe grossier et alcoolisé, c'est le point de départ de ce voyage. Voyage, parce que la chanson de Désiré Less nous accompagne. C'est un trajet insolite, émouvant, sans pathos, ou comment, et par la grâce de cette mise en scène, mais comment fait-il pour tourner dans ce train et d'éclairer deux identités tellement différentes, vont se rejoindre, s'ouvrir à l'autre, et plus important, à eux-mêmes, au-delà du romantisme, le tout incarné par deux acteurs extraordinaires. Elle s'appelle Sedi Arla, et lui, il s'appelle Yuri Borisov, c'est le jeune acteur russe qui monte. En allant le revoir cette semaine, j'ai découvert un trésor caché. Cette réplique au tout début du film, lorsque Laura est encore à Moscou, cette réplique comme un indice pour la suite et que je vous livre, seuls des fragments de nous touchent un jour des fragments d'autrui. C'est un miracle ce film, il s'appelle Compartiment numéro 6, vous êtes d'accord Laura ?
Mais comme quoi une fille rencontre un gars, oui. c'est le pitch, hein. Oui. Bah, ça peut donner des petits miracles.
Ouais, miracle. Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, c'est un documentaire de Michel Leclerc, c'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a eu des centaines, Laurent, Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, c'est l'histoire de leur maison d'enfants de Sèvres, d'ailleurs qui a accueilli la mère du réalisateur Michel Leclerc.
Oui, c'est pour ça que son implication est extrêmement forte dans le documentaire, peut-être un peu trop forte au bout d'un moment d'ailleurs. Alors disons par exemple qu'il y a par ailleurs des très très belles séquences d'animation qu'on doit à Sébastien Lodenbach pour montrer des choses que l'histoire ne peut plus montrer. Et ça c'est vraiment un bel ajout et un bel apport au film.
Après, ils ont sauvé des enfants juifs pendant la guerre.
Bien entendu, tout ouais. à fait. Alors ça leur a été, après il y a eu un problème avec le Parti communiste. Ouais. Enfin bon, c'est une histoire très très compliquée. Très, 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 très intéressante, dans laquelle, effectivement, Michel Leclerc s'investit, et avec, progressivement, on le sent, et il l'explicite à la fin du film, avec un message qui est, au fond, il faut peut-être on peut oublier son identité, en l'occurrence son identité juive, on peut oublier l'histoire avec un grand H. Et j'avoue que là, il y a peut-être un petit problème de concordance des temps. Quand on est en train en France de se demander, ou certains se demandent tout d'un coup si Dreyfus était vraiment innocent, je ne suis pas certain que ça soit le bon moment pour diluer l'identité juive à travers quel que soit le récit, quelle que soit l'histoire. Et évidemment, Michel Leclerc n'est pas responsable de cette triste actualité, non. Mais néanmoins, ça jette un trouble.
Enfin, reste un beau portrait de cette famille, de ces deux personnes. Burning Casablanca, c'est un film d'Ismaël El Iraki. Rockstar déchu, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de Raja qui est une prostituée à la voix d'or. Ils écument les nuits et dans la ville et tombent éperdument amoureux. Il y a dans ce film, mais toute l'énergie d'une première œuvre, une flamme constante, une vitalité dingue et au passage, la découverte d'une scène underground, celle du quartier Cuba à Casablanca, qui a rarement et même jamais été filmé. Alors oui, c'est brouillon, le film souffre de quelques longueurs, mais est sans cesse rattrapé par ces deux acteurs magnifiques, Laurent.
Oui, c'est un film absolument fiévreux, ouais. Hein, qui mêle allègrement polar, western, fable, conte, personnages romantiques, néanmoins, dans cet environnement que vous venez de décrire. Et puis je crois qu'effectivement, il y a une sorte d'autre personnage principal qui est Casablanca, comme on l'a peut-être jamais vu filmé au cinéma, de nuit notamment, mais pas seulement. Et là, effectivement, c'est une espèce de ville absolument tentaculaire qui est tout à fait fascinante.
Avec Alcansa Batma et lui Ahmed Hamoud. Careless Crime, c'est une comédie iranienne, comédie dramatique. À partir d'un événement qui s'est réellement passé en Iran, c'est l'incendie d'un cinéma.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est un drôle de film, et il faut écrire film au pluriel parce qu'il y a trois films en un. Celui que nous regardons et qui retrace effectivement le drame du cinéma Rex en 1978, où il y a eu plus de 400 victimes dans l'incendie, hein. Deuxième film, c'est celui que le cinéma du film projette et dans lequel les héros vivent un drame en noir et blanc. Et puis, il y a un film sur les mesures anti-incendie qui ont été prises. Donc, ce qui est incroyable, c'est que cet ensemble très disparate, très fouillis, on s'y perd un peu parfois. Il a un discours commun, une vertèbre profonde, c'est tout simplement la défense de la culture, là où elle est toujours menacée, et on voit bien qu'en Iran, elle l'est. Donc on est emporté par les trois films à la fois, c'est absolument labyrinthique et revigorant.
On va aller très vite parce que on n'a pas beaucoup de temps. Jacques Doyon en quatre films, Les doigts dans la tête, La drôlesse, La femme qui pleure, La vie de famille. Un festival, Laurent.
Un festival, c'est Ciné-Banlieue du 10 au 18 novembre, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen et quelques cinémas parisiens. C'est toujours parrainé par Reda Kateb, qui montrera d'ailleurs le nouveau film dans lequel il joue, qui est très beau, qui s'appelle Les promesses. Des films en compétition, 9 longs métrages, des avant-premières, des cours pour dire et raconter la banlieue actuelle.
Des cadeaux qui ne sont pas la nourriture, elle va nous en vouloir.
Hélas, désolé, on peut pas croquer. Et pourtant, il est assez épais. Le Pandora pour vous, Valérie Le Mercier, dans un sublime coffret de chez Carlotta.
Ava Tigarner. Bon, c'est bien.
Ava Tigarner.
Coffret Blu-ray, DVD, livré de 160 pages de Patrick Brion, wow. Pour ce chef-d'œuvre absolu du cinéma américain, évidemment. Je le répète, c'est chez Carlotta. On est très heureux de vous l'offrir et de
Merci
le conseiller
beaucoup.
Vivement à nos auditeurs. Pour vous, Victoria Sio, un des Indes galantes. C'est un documentaire.
C'est très, très drôle. Ma meilleure amie et ma chorégraphe dansent dedans. Et je ne l'ai pas vue. Très bien.
Merci, cadeau bienvenu.
Très belle mise en scène de Clément Cogitor. C'est chez Pyramide. Et vraiment, c'est une plongée incroyable dans cette arrivée sur la scène de l'opéra du Crump, notamment. Et ça, c'est tout à fait saisissant. Super. Et puis, pour vous, Olivier Cachin, tout à l'heure, on parlait d'Elvis Presley. Je ne sais pas si vous avez eu cet ouvrage qui vient de paraître. Ah, ben tant mieux. C'est un ouvrage de Yann Jouvert sur Elvis Presley et le cinéma. Le mal américain parfait. Selon lui, c'est chez Rouge Profond et c'est une très très belle étude de ce chanteur qui a aussi tourné, il faut le rappeler quand même, sous les directions par exemple de Don Siegel ou de Michael Curtis, donc c'est pas rien, et qui a généré effectivement toute une mythologie
et qui chantait ses dialogues quand il ne savait pas jouer. Ça, c'était magnifique.